Le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bienvenue à ce magazine consacré aux activités des Nations Unies. Voici les titres de cette émission. Nous n'entretenons aucune relation avec aucun groupe, fût-il les FDLR, propos du général Abdallah Wafi, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en RDC en charge de l'état de droit, réagit ainsi aux accusations de Kigali selon lesquelles l'armée congolaise et la force de la MONUSCO collaboreraient avec les FDLR. Les détails dans l'actu de la semaine. Un programme quinquennal pour le développement de l'agriculture en RDC a été signé jeudi dernier à Kinshasa. Quel est le contenu de ce que les experts appellent cadre de programmation pays 2013-2017? La réponse avec notre invité dans quelques instants. Enfin, santé, des stratégies efficaces pour éliminer l'infection et la transmission des maladies tropicales ou maladies oubliées. C'était l'objectif de la réunion transfrontalière RDC-Ouganda qui s'est tenue la semaine dernière à l'OMS RDC. Vous aurez les détails dans le décryptage.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Le général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint en charge de l'état de droit, et le colonel Félix Bass, porte-parole militaire de la MONUSCO, ont fait le point du rôle joué par la brigade lors de la récente offensive des FARDC. C'était à la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies, mercredi dernier, à Kinshasa. Ils ont aussi rejeté les allégations du gouvernement rwandais selon lesquelles l'armée congolaise et la MONUSCO collaboreraient avec les FDLR. Honoré Missenga Kalala signe ce reportage.
Pour le général Wafi, les accusations de Kigali sont extrêmement graves.
Je vous rappelle que notre mandat, c'est de neutraliser ces groupes armés, pas d'entretenir quelconque relation avec ces groupes-là. Et je peux, au nom de la mission, vous dire que la force de la MONUSCO, l'ensemble de la force, que ce soit la brigade d'intervention, que ce soit la brigade de Nord Kivu, nous n'avons aucune relation, aucun lien avec des groupes négatifs dont nous sommes censés neutraliser les activités pour assurer la protection de la population civile. Je crois que ceci a le mérite de la clarté et vous allez voir dans les semaines et mois à venir les actions que la brigade va entreprendre, y compris contre les FDLR que nous considérons comme un groupe négatif, comme un groupe armé.
D'autres mises au point de la MONUSCO ont aussi porté au cours de cette même conférence de presse, notamment sur le rôle de la brigade d'intervention lors de l'offensive de l'armée congolaise contre le M23, le colonel Félix Bass.
Lors de cette offensive des FRDC, il a fallu à un moment ouvrir la barrière de Kanyarushinya, reculer pour permettre aux FRDC de continuer leur offensive parce qu'ils avaient déjà capturé à l'ouest la colline de Mutaho et ils venaient de capturer la colline du Nord, et cette colline du Nord est en face de la position de la MONUSCO à Kanyarushinya. Donc nous avons tout simplement rebasculé nos forces légèrement en arrière pour permettre aux blindés de l'armée congolaise de poursuivre leur offensive vers Kibati. Donc voilà ce qui s'est passé, et il y a eu une mauvaise interprétation, une mauvaise lecture, mais figurez-vous que tout ceci est en train de rentrer dans l'ordre, parce que même des officiers FRDC se sont impliqués et ont eu à expliquer en swahili aux populations qui était l'ennemi, quel était l'apport et le concours non négligeable que la MONUSCO était en train d'apporter à leurs troupes.
Le général Wafi insiste.
Je voudrais ajouter par rapport à ce que dit le colonel Bass, c'était simplement une incompréhension. Les populations locales qui ont vu le mouvement des chars de la MONUSCO ont même pensé que la MONUSCO était en train de se retirer du dispositif. Spontanément, les gens ont mis des pierres, des barricades pour protester, pour demander à ce que la MONUSCO appuie les FARDC dans leur opération. C'était simplement cette incompréhension. À l'heure où je vous parle, la 8e région militaire, le commandement des FARDC, les notabilités locales, toutes les populations ont été mises à contribution. La situation est devenue calme, normale, et nous avons réaffirmé notre volonté de contribuer à sécuriser et à maintenir le dispositif offensif tel qu'il a été prévu en accord avec les FARDC.
Côté diplomatique, et toujours en rapport avec les derniers affrontements entre les FARDC et le M23, il y a cette déclaration du porte-parole de Ban Ki-moon. le secrétaire général de l'ONU invite les partis à faire preuve de retenue et réaffirme l'importance de travailler dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba pour s'attaquer aux causes profondes du conflit en RDC, indique cette déclaration. Ban Ki-moon est profondément préoccupé par des allégations de mauvais traitement de détenus du M23 et des profanations de cadavres des combattants par FRDC, précise la même source datée du 17 juillet dernier.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Des experts de la santé de la RDC et de l'Ouganda se sont réunis du 18 au 20 juillet à Kinshasa pour dégager des stratégies susceptibles de garantir la lutte contre les maladies tropicales ou maladies oubliées. Le docteur Diallo Noulou est conseiller technique au programme africain de lutte contre l'oncocercose à l'OMS. Il répond aux questions de Richard Kamunga dans la rubrique décryptage.
Docteur Diallo, bonjour.
Bonjour.
Une réunion transfrontalière au Ouganda est de saisir l'élimination de l'oncocercose, de la filariose lymphatique et de l'alloise. Quel est l'objectif de cette réunion?
Il s'agit en fait de considérer d'abord le contexte. C'est-à-dire que dans le cadre africain, il y a des pays qui partagent donc des frontières et pour lesquels il y a des maladies qui ne connaissent pas les frontières. Ce qui veut dire que des maladies qui sont, par exemple, transmises par des vecteurs tels que celles que vous venez de citer, l'oncocercose, la filariose lymphatique ou l'alloise, c'est des maladies qui peuvent se retrouver de part et d'autre de la frontière. Alors, il s'agit ici effectivement d'évaluer le niveau de mise en œuvre des interventions d'élimination de ces maladies entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, notamment au niveau des projets qu'on appelle les projets TIDC, Ituri Nord, Ituri Sud, Rutshuru Goma et Butembo Beni. Il y a eu dans le cadre de ce qu'on appelle le forum d'action commune du programme africain de lutte contre l'oncocercose, le programme APOC, une résolution qui avait recommandé que les pays membres du partage des frontières pour lesquelles il y a des zones endémiques à ces maladies, que ces pays puissent se concerter et créer des cadres de collaboration afin d'élaborer des actions conjointes qui peuvent être menées de part et d'autre, compte tenu du fait que les mouvements de population et les mouvements de vecteurs ne connaissent pas de limites. Et c'est pour cette raison donc qu'il faut éviter que les zones assainies soient encore réenvahies à partir des zones non assainies. Nous espérons qu'un plan d'action cohérent et réaliste et facilement bancable pourra être élaboré par les deux parties, je parle de la partie ougandaise et de la partie congolaise, afin que les populations qui vivent de part et d'autre de la frontière puissent être traitées conjointement.
Est-ce que vous pouvez nous faire quand même les points sur ces maladies en République démocratique du Congo?
La RDC fait frontière avec 9 pays, parmi lesquels 7 sont endémiques à l'oncocercose. Si nous avons fait une réunion avec l'Ouganda, c'est compte tenu de la crise financière qui limite, disons, la mobilisation des ressources. Sinon, on aurait fait cette réunion en même temps avec le Sud-Soudan, avec la République centrafricaine et le Congo. Mais la réunion avec le Congo, Brazzaville, a déjà été faite. La réunion avec le Burundi a été déjà faite. Mais par rapport à la question que vous avez posée qui concerne les maladies, ce n'est pas l'oncocercose seulement. Donc, il y a ce qu'on appelle le groupe des maladies tropicales négligées. Négligées parce que jusqu'à récemment, il y a eu peu d'attention de la part non seulement des pays qui souffrent de ces maladies, mais également des donateurs concernant ces maladies. Je veux citer l'oncocercose, la filariose lymphatique, les schistosomiases ou bilharziose, les helminthias, c'est-à-dire les maladies parasitaires qui sont transmises par le sol, on les appelle géohelminthias. Il y a également la lèpre, la trypanosomiase humaine africaine. Nous avons l'ulcère de Burundi, le ver de Guinée, et le pian, etc. Il y a donc beaucoup de maladies qui sont appelées sous le vocable maladies tropicales négligées. Alors cette réunion ici s'est focalisée sur les trois maladies, à savoir l'oncocercose, la filariose lymphatique et l'alloise. Pourquoi? Parce que pour ces trois maladies, il y a un seul médicament qui est efficace, qui agit sur les trois. Vous prenez un seul médicament, vous pouvez éliminer les trois maladies. Or, l'alloise n'est pas un problème de santé publique en tant que tel. Mais considérant le médicament qui est utilisé dans les zones où sévit l'alloise, il peut y avoir des complications liées justement à la présence de l'alloise, qui est très 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 sensible au médicament qui est utilisé contre la filariose ou l'oncocercose. Voilà pourquoi on s'est focalisé sur les trois principales maladies. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres maladies pour lesquelles on pourrait organiser des réunions. Certaines maladies sont très focalisées. et donc ils ne sont pas à dispersion comme l'oncocercose ou la filariose lymphatique. Ce qui fait qu'on essaie de se focaliser sur certaines maladies qui peuvent avoir une dispersion interétatique.
Pour les auditeurs, la loise, c'est quel type de maladie et comment se manifester s'il y a encore des malades?
La loise, c'est-à-dire est une filariose, mais qu'on appelle filariose loa-loa. Vous savez, lorsque on découvre une maladie, on cherche l'agent pathogène, l'agent responsable de la maladie. Et parfois, lorsque on ne trouve pas de mot, on prend soit le nom de la localité où on a découvert le germe en question, ou bien le nom de celui qui a découvert le germe, etc. Donc souvent, les maladies sont nommées de cette façon-là. Mais la loise, telle que vous demandez, c'est une filariose qui ne cause pas de symptômes particuliers et qui empêche les personnes de travailler ou d'étudier. Mais ça se manifeste par le passage du ver et c'est très caractéristique dans la partie blanche de l'œil. Le ver migre dans toutes les parties du corps, mais lorsqu'il fait le passage au niveau de l'œil, on voit nettement la présence du ver dans l'œil. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on essaie de faire les enquêtes dans les communautés. C'est que il s'agit de faire de ramener le souvenir du passage de l'œil, du ver dans l'œil, avec une photo précise qu'on leur présente. Et là, puisque c'est très spectaculaire, lorsqu'une personne vous regarde et qu'il a le ver dans le blanc de l'œil, c'est très visible, ça ne lui fait pas mal, mais tout de suite, celui qui il regarde, il va dire, mais tu as quelque chose dans l'œil. Il y a un ver dans ton œil là. Il va essayer de vouloir enlever le... Alors que le ver est sous la membrane conjonctive. Or, la membrane conjonctive qui tapisse l'œil, elle est transparente. Donc, sous la membrane, tu vas voir le ver. Ça, c'est le ver loa-loa. Donc, ça s'appelle filariose loa-loa. Ou l'oise.
Tout à l'heure, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Démarrons ces nouvelles en bref par cet hommage d'Irina Bokova à Nelson Mandela à l'occasion de la journée internationale portant le nom de l'icône sud-africaine. Dans un message adressé au monde à cet effet, la directrice générale de l'UNESCO a dit notamment se joindre aux hommes et aux femmes pour rendre hommage à un homme qui, je cite, par sa force, sa clairvoyance et sa magnanimité, a transformé l'Afrique du Sud et changé le cours du XXe siècle. Toujours en rapport avec l'UNESCO, le projet Éducation en urgence pour l'Est de la RDC dans les camps de déplacés est entré dans sa phase opérationnelle. Une mission de 7 agences a séjourné la semaine dernière à Goma et s'est rendue dans les différents camps de déplacés concernés par ce projet. Il s'agissait d'établir un cahier de charges pour les travaux de réhabilitation et d'équipement des écoles ciblées. Côté humanitaire, la directrice exécutive du programme alimentaire mondial, PAM, a séjourné en RDC du 17 au 20 juillet. Ertharin Cousin a terminé sa visite par Goma où elle a passé 24 heures avant de continuer sa tournée au Rwanda hier, samedi. À Kinshasa, elle a eu des contacts avec quelques dirigeants de l'exécutif congolais, dont le Premier ministre Matata Ponyo et le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Makaire Mwangu. Des bâtiments administratifs abritant l'administration communale de Bipemba et la direction provinciale de Recette ont été remis à l'autorité politique provinciale du Kasaï-Oriental mercredi dernier. Ces édifices ont été construits avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement PNUD à hauteur de 250 000 et 300 000 dollars américains. Le directeur pays du PNUD RDC, Adama Koulibaly, a fait le déplacement de la ville de Mbujimayi pour la remise de ses ouvrages au gouverneur de province Alphonse Ngoy-Kassongi.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, FAO, et le gouvernement congolais ont signé jeudi dernier à Kinshasa le cadre de programmation pays pour les 5 prochaines années de 2013 à 2017. Ce programme quinquennal comprend les axes prioritaires de développement agricole en RDC. Il s'inscrit dans le cadre du DCRP2, le document stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Michel Dissona-Massindo, assistant du représentant de la FAO en RDC, est notre invité. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco autour de ce programme.
Michel Dissona-Massindo, bonjour.
Bonjour.
Votre organisation, la FAO, et le gouvernement congolais viennent de signer le cadre de programmation pays 2013-2017. Et d'abord, pour le commun des mortels, que signifie le cadre de programmation du pays et aussi le cadre programmatique et national du développement économique et social pays? Alors, que signifient tous ces concepts?
Vous savez, tous ces concepts concernent normalement la planification des interventions dans un pays, la planification du développement dans un pays. C'est au fait des cadres de priorisation des activités, ou si vous voulez, des actions du gouvernement dans le pays. Les cadres programmatiques nationaux essayent de prioriser les activités urgentes à mettre en œuvre dans l'intervalle du temps. Pour la République démocratique du Congo, nous avons le document des stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté des générations, des CRP2. Alors, comme vous le savez, dans un pays, il y a plusieurs problèmes et tous les problèmes sont importants. Et pour arriver à résoudre ces problèmes, il faut prioriser. Donc, le gouvernement va décider durant les 5 prochaines années, voilà les problèmes prioritaires. C'est ce qui est contenu dans le DCRP2. Et le DCRPD concerne l'ensemble de la vie nationale, l'agriculture, les mines, la santé, l'éducation, ainsi de suite. Chaque secteur devra normalement traduire la vision de DCRP par des actions concrètes. C'est ce qui est contenu pour le secteur agricole dans le programme national des investissements agricoles. Plusieurs acteurs interviennent dans le processus du développement du pays. Alors, les partenaires techniques et financiers aussi, à leur tour, vont essayer de regarder parmi les priorités fixées par le gouvernement, quelles sont les priorités qu'ils peuvent prendre en charge pour appuyer le gouvernement.
Est-ce que nous revenons un peu dans le cadre de programmation pays 2013-2017? Est-ce que cela entre dans le cadre vraiment de ce que vous venez de dire?
Effectivement, comme je disais, les Nations Unies ont signé ce que nous appelons UNDAF, qui est au fait le programme commun au niveau des Nations Unies pour aider le Congo dans son processus de développement. Et la FAO, à son tour, essaye de tirer parmi toutes ces priorités que le gouvernement a fixées et que les Nations Unies ont accepté de prendre en charge, quelle va être la contribution, quel va être le domaine prioritaire que la FAO va travailler pour aider le gouvernement.
Michel Dissonama, quels sont les axes prioritaires de ces nouveaux programmes?
Oui, ce nouveau programme de la FAO a retenu normalement trois domaines prioritaires et durant les 5 prochaines années, la FAO s'est engagée sur 10 produits contenus dans les trois domaines prioritaires. Et le premier domaine prioritaire, c'est la gouvernance du secteur agricole. La FAO va travailler dans les domaines des statistiques agricoles, va travailler dans les domaines de la planification et va travailler dans les domaines de la coordination des politiques agricoles. Le deuxième domaine prioritaire, c'est le développement des filières en utilisant ce que nous appelons l'approche chaîne de valeur.
C'est-à-dire?
Là-bas, nous avons retenu trois produits. Chaîne des valeurs, comme je disais, c'est essayer de booster le développement de l'agriculture en tenant en compte non seulement les aspects production, mais aussi les aspects consommation. Donc, lier les producteurs au marché. C'est ça que nous appelons l'approche chaîne des valeurs. Les trois autres produits du domaine prioritaire 2, c'est les technologies appropriées. Donc, nous allons apporter des technologies appropriées aux agriculteurs et sur toute la chaîne de production et de consommation. Nous allons nous engager sur les infrastructures de transformation des produits agricoles et nous allons nous engager sur l'entrepreneuriat rural. Le dernier domaine prioritaire, nous avons 4 produits. La question de gestion participative des forêts, les stratégies de développement des villes vertes et nous avons les systèmes MRV, qui est le monitoring dans le cadre de UNRED, et qui est le processus de réduction des gaz à effet de serre. Et puis, nous allons mettre en place un système national d'agrométéorologie pour les prévisions climatiques.
La FAP en République démocratique du Congo depuis 1978 et que l'agriculture a été toujours proclamée chez nous comme priorité de priorité. C'est pour dire qu'il existait au départ d'autres programmes. Est-ce que vous pouvez nous faire brièvement une évaluation du précédent programme à court terme?
Oui, si je dois faire une évaluation rapide, comme vous avez dit, la FAO est là depuis 1978, aux côtés du gouvernement. La FAO a aidé le gouvernement à mettre en place plusieurs types de politiques agricoles. Concrètement, je dirais des programmes de sécurité alimentaire. Un peu plus récemment, nous avons axé le gros de nos interventions dans le domaine des urgences. Comme vous le savez, le pays avait été proie à des guerres multiples, avec des problèmes humanitaires complexes. Et depuis à peu près 1998, la FAO a travaillé essentiellement à 95% de ses programmes dans le domaine des urgences.
le tout dernier programme de 2008, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché?
Oui, dans ce programme de 2008, ce qui a marché, c'est au fait les questions liées au développement des filières. Nous sommes en train de développer essentiellement la filière huile de palme à Punakiri dans le sud Kivu, à l'équateur. Nous avons la filière riz dans la plaine de Ruzizi, la filière maïs dans le nord Kivu. Nous sommes aussi dans le domaine de la pêche. Nous sommes aussi dans le domaine de l'élevage.
Est-ce qu'on peut dire que ça marche, tout ce que vous venez de citer?
Tout récemment, nous sommes en train de vacciner, si vous voulez, dans la région de Bandundu, la lutte contre peste.
Ah, vous voulez parler de la peste des petits ruminants?
Peste des petits ruminants dans le Bandundu. Et je ne dirais pas que tout marche, c'est les roulettes. La grande difficulté qu'on a, c'est des difficultés logistiques, surtout avec la grandeur du pays. Et on ne sait pas aller partout. Et voilà.
Quel est l'impact de ces nouveaux programmes sur une maman congolaise, une agricultrice dans nos villages? Qu'est-ce qu'il peut ressentir après l'exécution de ces programmes?
Concrètement, ce que la maman pourra sentir, c'est au fait l'amélioration de son revenu, de son pouvoir d'achat. Ça va être engagé dans le développement des filières.
Comment cela va se faire?
Avec l'apport en intrants agricoles ou pour augmenter la productivité du secteur agricole et pour améliorer l'évacuation des produits agricoles. C'est de cette façon-là que nous pensons que nous pouvons atteindre ces mamans-là. Mais aussi et surtout, la gouvernance. Parce que quand je parle de la gouvernance, c'est un point très important pour le développement du secteur agricole. Il faut mettre en place des lois et il faut même mettre en place des cadres qui essayent de baisser, par exemple, mettre en place des politiques douanières qui permettent d'importer les intrants agricoles à des moindres frais.
Michel, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
La nouvelle en province de cette émission parle santé. Plus de 3000 cas de rougeole, dont 48 décès, ont été enregistrés au Katanga depuis le début de l'année. Les zones les plus touchées sont celles de Kabalo et Kalemi, dans le district du Tanganyika. Le rapport publié mercredi dernier dans le bulletin d'information d'Ocha indique que cette situation s'explique notamment par la faible couverture vaccinale. Le point avec Denise Maéo.
Le district sanitaire de Tanganyika à lui seul compte 1511 cas de rougeole, dont 14 décès. Et c'est la zone de santé de Luanika dans le territoire de Kalemi qui est la plus touchée. D'après les informations du bureau 4 de l'inspection provinciale de la santé citée par Ocha, l'ampleur de la maladie dépasse les capacités des acteurs qui organisent la riposte sur terrain. Entre-temps, d'autres raisons expliquent la persistance de l'épidémie. C'est entre autres la faible couverture vaccinale des luttes contre la rougeole dans plusieurs zones de santé de la province et la faible mobilisation des fonds pour l'organisation des campagnes de vaccination. La zone de santé de Kalemi, par exemple, n'a pas connu de campagne de vaccination de riposte contre la rougeole depuis 2012. Actuellement, Médecins Sans Frontières mène des actions en vue de prendre en charge les cas de rougeole à Luanika, mais elle est confrontée aux problèmes logistiques. De son côté, l'OMS, cité par Ocha, indique que les besoins restent énormes dans la province pour l'organisation des activités vaccinales. Lubumbashi, Denise Maheu, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'Isi.
Oui, je m'appelle Alphonse Toko. Je suis marié, père de 5 enfants, 4 filles et un garçon. Tous adultes, ils travaillent. Je suis médecin de formation. Ma spécialité est la santé publique. Je travaille à l'UNICEF depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé énormément dans les urgences, dans tout le Congo, depuis le premier pillage jusqu'à, je dirais, le génocide rwandais de triste mémoire. J'ai géré des camps de réfugiés rwandais et des programmes de santé, nutrition des enfants non accompagnés. J'ai été en charge du bureau de l'UNICEF à Goma, à Kisangani, dans le Bas-Congo, à Boma et à Lubumbashi, avant d'aller au Cameroun comme chef de la section santé-nutrition pendant 2 ans. Et les urgences m'ont rattrapé avec la crise ivoirienne. En 2003, j'ai été rappelé par notre bureau régional pour apporter mon expérience à l'équipe de l'UNICEF Côte d'Ivoire à Abidjan, où j'ai été en charge de la création du bureau d'urgence en pleine zone rebelle à Bouaké, où j'ai travaillé pendant 6 ans à remettre en place, si vous voulez, les systèmes de santé qui étaient complètement perturbés par la guerre. Vers la fin de ma carrière, je préférais revenir en RDC, où en réalité je suis déjà retraité depuis août 2012. Je joue encore les prolongations pour partager mon expérience avec nos jeunes qui viennent renforcer l'équipe. Je continuerai à jouer ces prolongations tant que Dieu me donnera la force. C'est une passion pour moi de travailler dans le domaine de la santé publique et surtout dans des pays comme la RDC où il y a des défis énormes, des épidémies. Et justement, je venais de parler du cadre d'accélération et la réduction de la mortalité. Je voudrais contribuer à éliminer toutes ces épidémies dans ces pays. Et ça, c'est à travers la formation, l'encadrement de jeunes à mieux gérer les structures sanitaires et les programmes de santé. Ça, c'est ma passion. Avant d'être aux Nations Unies, j'ai été médecin généraliste à Kwilungongo de 77 à 84. J'ai créé la première zone de santé de Kwilungongo. J'ai été médecin d'entreprise à la compagnie sucrière. C'est là où j'ai découvert la passion de la santé publique avant de rentrer à l'école de santé publique de Kinshasa où j'ai fait ma maîtrise en santé publique et j'ai commencé la recherche en cette matière avant d'intégrer les Nations Unies et l'UNICEF. Bon, mes temps libres, je les passe beaucoup plus à la lecture et j'aime la télévision et la musique. J'aime bien la rumba, de Lucky Jazz. Et avec les jeunes d'aujourd'hui, Kofi et Fally Ipupa. Merci de m'avoir donné l'occasion de me présenter.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Je m'appelle Kasereka Serge, je suis à Aru, dans la province orientale. Nous avons appris l'afflux d'au moins 2500 réfugiés ougandais dans la province orientale. L'opinion craint l'infiltration de ZADF Nalu et des Zelera parmi les réfugiés qui ont traversé la frontière avec l'Ouganda. Quelles sont les dispositions prises par la division DDRRR pour les démobiliser? Ceci pour ne pas connaître la situation de 1994 avec les réfugiés rwandais et les Interahamwe. Je vous remercie.
Merci Serge Kasereka. Voici la réponse à votre question.
D'abord préciser une chose, les personnes qui viennent de l'Ouganda, on n'a jamais affirmé que c'était des militaires. Il s'agit, à notre connaissance, des populations civiles qui fuient un conflit intercommunautaire dans le district d'Arua qui viennent. Et au dernier chiffre donné par le HCR, il s'agit aujourd'hui de 2667 personnes. Donc, à notre connaissance, c'est pas des hommes en armes. Si, en répondant à la question la semaine dernière, on a fait allusion au programme DDR, c'est parce que dans la question, on semblait insinuer qu'il y avait des hommes armés parmi eux. Nous n'avons pas connaissance de cette situation, mais s'il y a des hommes armés parmi eux, ce n'est pas le mandat des humanitaires. C'est pourquoi je vous ai dit qu'ils relèveraient d'un autre programme qui est justement le DDR. Donc, je n'ai pas dit qu'il y avait des hommes armés parmi eux. Le HCR est actuellement sur le terrain. Depuis hier, il s'est rendu dans le territoire d'Arou pour justement commencer à apporter une première réponse à ces personnes qui se sont déplacées. Et on n'a pas d'information à ce jour qui dit que les personnes qui ont fui l'Ouganda sont des personnes armées, sont des militaires. On n'a pas cette information.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Dans vos carnets de rendez-vous de la semaine prochaine, notez cette date. Jeudi 26 juillet, Wagner Mexen, conseiller du groupe de pratique de gestion de l'UNOPS, conduira à Kinshasa un atelier de bonnes pratiques en gestion de projet. Un atelier destiné aux différents partenaires de l'UNOPS, Bureau des Nations Unies, pour les services d'appui au projet. Autre rendez-vous, un atelier sur l'entrepreneuriat et la création des revenus dans le cadre du projet Renforcer les radios locales au TIC, qui se tiendra à Kinshasa du 22 au 26 juillet au bureau de l'UNESCO. Le projet est financé par l'Agence suédoise d'aide au développement international. Fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je suis Mila Kimbwini. J'étais à la présentation avec l'assistance technique du côté de la régie de Sylvain Matundu. Nicole Ngaka en a assuré la supervision. Jean-Pierre Elali Coco la coordination et Honoré Missinga le portage. Vous pourrez aussi nous suivre à partir de notre site internet www.radiocapi.net. Vous avez une préoccupation, une question par rapport à cette émission, contactez-nous au 082 30 76 630 ou laissez-nous votre question sous forme de commentaire sur notre site internet en dessous de l'émission. Nous sommes aussi joignables à partir de notre boîte email que vous connaissez tous, magun@radiocapi.net. Vous pouvez aussi donc nous écrire à partir de cette adresse. Nous attendons vos réactions. Nous vous souhaitons un excellent dimanche. Au revoir.